France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Et nous sommes le samedi 12 octobre. Bienvenue sur France Musique au Lefto. Laurent Lefrançois est à la réalisation, José Bernès et Valentin Bobinet à la technique. Bienvenue dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral, à la pédagogie, au plaisir de la musique. Le menu du jour le voici à 8h. La chronique de Christophe Chassol qui nous fera découvrir l'œuvre de Hubert Laos, flûtiste qui mélange classique, jazz et électro. À ses côtés, un trio de jeunes flûtistes. À 8h15, la soprano Julie Fuchs évoquera ses premiers pas de musicienne. À 8h20, notre reportage, nous irons nous balader dans les sous-sols de l'université de médecine Paris-Sud à la découverte de sa fanfare. Dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous parlera des lycéens du Grand Est qui chantent de la pop anglaise. Notre invité à 8h40 sera Antoine Boulet, président du festival Ouverture Musique Française à Semur en Auxois. Enfin, Rosine Bachelot nous donnera un petit avant-goût de notre soirée opéra sur France Musique avec Falstaff de Verdi.
Thank you.
Et rien de tel que le boléro de Maurice Ravel pour bien démarrer le week-end. L'Orchestre Symphonique de Montréal était dirigé par Charles Dutoit.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
7h46 minutes chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre pour faire découvrir la musique classique aux enfants. Et bien aujourd'hui, j'ai jeté mon dévolu sur la bande dessinée Forte, qui paraît chez Dargo, une jolie histoire, celle de Flavia, jeune brésilienne née dans une favela qui découvre le piano et Chopin le jour où elle accompagne sa mère qui fait le ménage chez un passionné de musique classique. Elle rêve de devenir concertiste, elle est envoyée quelques années plus tard à Paris grâce à une bourse et intègre l'école normale de musique de Paris fondée par Alfred Cortot. Alors entre les petits boulots, les examens, les concerts donnés avec ses colocataires, Chopin et la musique d'aujourd'hui, on suit le parcours pas toujours si évident d'une musicienne en herbe à Paris. Le titre Forte signifie jouer fort dans le langage musical. Et cette très belle bande dessinée est donc parue chez Dargo. Elle s'adresse à tous, à nous adultes, mais aussi aux plus jeunes, je dirais dès 8-10 ans. Le scénario est signé Manon Heugel et les dessins Kim Consigny. Forte, qui paraît donc chez Dargo, est la bande dessinée que je vous recommande chaleureusement cette semaine. La valse minute de Frédéric Chopin, enregistrée en 1963 par Arthur Rubinstein, pour illustrer cette bande dessinée Forte qui paraît chez Dargo, histoire dont les décors sont ceux de l'École normale de musique de Paris. Et sachez justement que l'École normale de musique de Paris ouvre ses portes gratuitement aujourd'hui pour une journée spéciale de concerts, de conférences, de masterclass ou encore d'ateliers. Plus d'informations sur écolenormalecourteau.com. Il est 7h50. Un mot rapidement sur la nouvelle saison de Viva l'Orchestre. On vous en parle déjà depuis plusieurs semaines. L'Orchestre des grands amateurs de Radio France. Les inscriptions se clôturent demain sur le site maisondelaradio.fr. Alors si vous êtes musicien, si vous avez entre 7 et 97 ans et que vous souhaitez vivre cette expérience, sachez que 2 années de pratique instrumentale seulement sont requises. C'est un projet qui s'adresse effectivement à tous les instrumentistes amateurs. Les répétitions se déroulent sur plusieurs week-ends entre janvier et juin prochain. Elles sont encadrées ces répétitions par les musiciens de l'Orchestre National de France. Et puis une nouveauté cette année, l'inscription est ouverte aux choristes amateurs qui seront encadrés par des membres du chœur de Radio France. Pour vous inscrire à Viva l'Orchestra, rendez-vous sur le site maisondelaradio.fr. Vous avez jusqu'à demain minuit. Thank you. Les premières notes de West Side Story, le prologue de Leonard Bernstein, interprété ici par l'Orchestre français des jeunes et Emmanuel Krivine à la direction. Juste avant de retrouver Christophe Chassotte pour sa chronique à 8h, je vous propose de gagner aujourd'hui sur France Musique des places pour le festival Listomania qui se déroulera du 20 au 26 octobre en région centre à Châteauroux. Et plus précisément pour le concert que le pianiste Jonas Vito donnera dans le cadre de ce festival, ce sera le 23 octobre prochain. Attention, le concert est à 16h. Jonas Vito jouera Liszt, bien sûr, mais aussi des pièces de Frédéric Chopin. Alors pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous envoyez vos coordonnées, puis la bonne réponse à la question qui va suivre, et vous recevrez peut-être deux places dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Ce matin, je vous propose de deviner le nom de cette danse à trois temps. Oh là là, c'est facile. Danse dans laquelle les couples enlacés tournent sur eux-mêmes et autour de la salle. Elle peut être lente, tournoyante, oubliée. Elle a été immortalisée par Johann Strauss, Chopin, Liszt ou encore Jacques Brel. Trois propositions, le foxtrot, le twerk ou bien la valse. Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. La valse oubliée de Franz Liszt, interprétée ici par le pianiste Jonas Vito, qui sera en concert le 23 octobre prochain dans le cadre du festival Listomania à Châteauroux. Je vous propose de remporter vos places pour ce concert. Une seule adresse, francemusique.fr.
Bonjour, c'est Christian Merlin. Je vous donne rendez-vous dimanche dans Au cœur de l'orchestre, Philharmonia, London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra. Faites-vous vraiment la différence entre ces orchestres qui font la fierté de la vie musicale londonienne? Découvrons-les ensemble. Au cœur de l'orchestre, c'est le dimanche à 9h sur France Musique, en réécoute et podcast sur francemusique.fr.
Les éditions Radio France présentent Opéra de Paris, toute une histoire, de Jérémy Rousseau et Gérard Denisot. Entre chefs-d'œuvre et épisodes historiques, parcourez les plus grands moments qui ont fait l'épopée de cette institution hors norme. La construction du Palais Garnier, le plafond de Marc Chagall, les opéras et ballets des plus grands compositeurs. Deux passionnés racontent 350 ans d'histoire et de musique. Opéra de Paris, toute une histoire, un livre France Musique.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là, dans, oui.
Vous allez l'adorer.
France Musique, il est 8h, c'est l'heure de retrouver Christophe Chassol, bien sûr. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
Et puis de retrouver évidemment Dounia, Rim et Quentin qui sont avec nous tout le mois d'octobre. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors vous avez tous les trois 12 ans, grande carrière déjà derrière vous. Ça fait 5 ans que vous faites de la flûte à raison de 2 heures par semaine au Conservatoire Rayonnement Régional d'Aubervilliers-La Courneuve. Christophe, on va suivre un cours avec vous ce matin. Qu'allons-nous apprendre? Je pense qu'on va s'intéresser à un flûtiste que vous aimez tout particulièrement.
Tout particulièrement, je l'adore même. C'est Hubert Laws, flûtiste classique et jazz, dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, plusieurs fois même.
Je m'en rappelle bien.
Hubert Laws, voilà, parce que c'est un 4-4, il va partout, il sait tout jouer, il a repris beaucoup de pièces classiques comme les Gymnopédies, le Sac du Printemps, Pavane de Forêt, L'Oiseau de Feu de Stravinsky, quoi d'autre, et la Symphonie du Nouveau Monde, Dvorak. Et voilà, je vais vous parler de ce morceau-là, parce que ça va nous donner l'occasion d'étudier des accords, et puis de voir comment il improvise sur ces accords. On va écouter quand même quelques extraits de d'Hubert Laws pour le plaisir. Donc on va écouter d'abord Air Again, qui est un morceau où il joue juste, il improvise par-dessus de la batterie. Voilà, il improvise, c'est comme un oiseau encore une fois. Ça vous plaît? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ça me fait penser à un enfant qui a fait une bêtise et qui ressort de sa bêtise en cachette.
Ouais, c'est pas mal ça.
Moi, ça me fait vraiment penser à un oiseau qui chante.
Ouais.
Pour moi, c'est plutôt du jazz ou un truc du genre.
Ok. Donc voilà, bon, Hubert Laws, encore une fois, je vais passer un autre extrait d'une pièce très connue de flûte qui s'appelle Syrinx. C'est une des premières pièces pour flûte solo qui est écrite par Debussy. On va écouter juste le tout début, où Hubert Laws joue la pièce, joue la première phrase, mais ensuite il se superpose à lui-même électroniquement, c'est-à-dire qu'il a enregistré 3 fois, et il fait juste se décaler comme un canon la mélodie. On écoute, Syrinx. Voilà pour Hubert. Et un dernier extrait qui va être celui qu'on va un peu analyser en termes d'accords et vous allez essayer de me jouer les accords ensuite. Alors Going Home, c'est Dvorak, la Symphonie du Nouveau Monde, une adaptation on va dire. Et on écoute le solo. Alors, on va essayer de faire...
C'est facile à jouer, ça? Justement, j'ai envie de savoir. Hein. On a quand même des flûtistes dans la salle.
Je suis pas sûre. Pareil.
Et toi, Dounia?
Ouais, je pense qu'il faut beaucoup d'entraînement et de travail pour réussir à faire ce morceau.
Alors, Christophe, on va commencer avec des accords, alors?
Bah oui, en fait, les accords qu'on vient d'entendre, c'est ça. C'est un si bémol mineur, donc avec une basse de si bémol. si bémol, c'est la basse. La basse, elle va jamais changer. Au-dessus, on fait si bémol mineur, si bémol, ré bémol, fa. Et on va superposer un accord au-dessus du si bémol de la basse. Ça va être do, mi, sol, do majeur. Ensuite, on va mettre si majeur, si, ré dièse, fa dièse. Et ensuite, on revient à si bémol mineur, si bémol, ré bémol, fa. Donc, je vous ai écrit ces trois notes. Donc, votre répartition, c'était toujours Dounia qui est en bas. Donc, tu fais les si bémol, le si bémol. Si bémol, do, si et si bémol. Vas-y. Deux, trois. Très bien. Au-dessus, au milieu, c'est rime. Tu vas, donc toi, tu fais ré bémol, mi, ré dièse, ré bémol. Là, c'est un ré bémol qu'il faut faire. À la dernière. Ok ? Ok. Et pour toi, Quentin, c'est la voix du haut. Fa, sol, fa dièse, fa. Ok. Alors, vous, tout le monde ensemble, et on va faire des rondes. 1, 2, 3. Et... Encore. Allez, du début. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alors j'aurais bien aimé vous faire écouter une phrase de solo que fait Hubert Laws par-dessus ça, et j'aurais bien aimé la relever avec vous. C'était juste pour l'idée de vous dire qu'il faut jouer, c'est très bien de jouer avec les disques, de jouer par-dessus les disques, et de jouer dans la musique. Comme ça, on a l'impression de jouer avec les meilleures personnes possibles. Enfin, c'est la meilleure façon d'apprendre, de jouer par-dessus les disques, à l'intérieur des disques. Et puis aujourd'hui, vous avez plein d'outils sur vos ordi qui vous permettent de faire des loops, de faire des boucles, et de mettre toujours les mêmes passages en boucle. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Et donc là, ça, je me le mettrais en boucle et je jouais par-dessus. Il y a une phrase géniale de Hubert, donc Hubert Laws là-dessus. Do, ré, fa, sol, la, si, do, ré, do, sol, mi, ré, do, ré, mi, sol, fa, si, do, sol, fa, do, ré, do, la, fa, ré, do, si. Donc vous allez me jouer, moi je vais faire juste la basse, vous allez me rejouer ça et je vais jouer la phrase d'Hubert par-dessus. 4 et...
La symphonie du Nouveau Monde revisitée par Dounia, Rime Quentin et Christophe Chassol. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Christophe.
Merci.
On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine.
Oui, c'est trop court.
À la semaine prochaine. Thank you. Peter Whispleway, Diane Lazic ici en duo pour ce final de la sonate numéro 5 en ré majeur opus 102 numéro 2 de Beethoven. Il est 8h12 minutes.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Bon, n'en fais pas.
Et dans cette émission, nous nous intéressons au chant choral. Ça, ce sera avec Marc-Olivier Dupin à 8h30. Nous nous intéressons aussi à la pédagogie, à la transmission, aux pratiques amateurs, ces amateurs qui jouent pour leur propre plaisir. C'est d'ailleurs par là que tout a commencé pour les musiciens professionnels. Et ce matin, j'ai demandé à la soprano Julie Fuchs de nous raconter ses débuts et l'impact de la musique sur sa vie.
La musique, ça me procure une base et un but. C'est-à-dire que la musique, c'est ma compagne de vie, c'est mon métier, je trouve que c'est mon métier maintenant, mais avant que ce soit mon métier, c'était déjà une partie très importante de ma vie. Mon premier cours de musique, je devais avoir 7 ans, puisque j'ai commencé par le violon et donc le solfège. Donc je pense que ça devait être un cours de solfège. Je me rappelle que j'étais très impressionnée. J'avais un peu peur de cet inconnu parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est l'école. On en entend parler avant d'y aller, etc. Mais le conservatoire, on ne sait pas trop. On sait qu'il y a une maîtresse, mais ce n'est pas vraiment une maîtresse. Il n'y a pas vraiment de récré. Donc voilà, à 7 ans, je me rappelle ce couloir là, au conservatoire d'Avignon où j'attendais que la porte s'ouvre avec cette nouvelle maîtresse. Mes premiers souvenirs en tant que toute jeune étudiante en musique, c'était les souvenirs de déchiffrage de partitions, notamment à plusieurs voix. Et ça, c'était un souvenir de, je sais pas, ça vibrait, c'était trop bien. J'ai eu la chance d'avoir plein de professeurs qui m'ont tous appris quelque chose. Même les pires m'ont appris à ne pas écouter mes professeurs, par exemple, quand on sent que c'est pas le bon chemin. Mais dès le début, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui étaient absolument passionnés, ce qui n'est pas forcément le cas. Ma professeure de violon, par exemple, Chantal Rodier, c'est d'ailleurs un personnage, tout le monde la connaît dans la région, elle m'a enseigner, je pense, le goût de l'exigence, la passion, le dévouement total et peut-être un peu de perfectionnisme aussi. Le plus difficile dans l'apprentissage du chant, il y a plein de choses difficiles, je ne sais pas. Je dirais que c'est la limite ou tout l'espace qu'il y a entre ce qu'on ressent et ce qu'on nous dit de faire, ou ce qu'on ressent et ce qu'on entend. C'est tout ça, je trouve, qui est compliqué dans le chant, qui est peut-être encore un peu plus compliqué dans le chant que quand on est instrumentiste. C'est ce rapport à l'instrument qui est absolument direct. Si j'avais un conseil à donner à de jeunes chanteurs et chanteuses, ce serait de rester curieux, de ne pas hésiter à voyager, à apprendre des langues, parce que la technique vocale, évidemment, on n'a pas besoin de dire que c'est important. Et je dirais principalement, si on devait retenir qu'une chose, c'est de garder le plaisir au centre de notre activité vocale.
Thank you.
Écoutions Julie Fuchs, cette voix Julie Fuchs, accompagnée par l'Orchestre National de Lille, Enrique Mazzola dans cette air, Io son la zingara de Vincenzo Fioravanti, un extrait de ce disque intitulé Mademoiselle, paru l'an dernier chez Deutsche Grammophon, en partenariat avec France Musique, bien sûr.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et bonjour Marie Jiquel, vous avez promené votre micro ce matin dans les sous-sols de l'Université de médecine Paris-Sud, au Kremlin-Bicêtre, au sud de Paris. Depuis 1998, sa fanfare résonne entre ses murs. De nombreuses universités en France en disposent. C'est un apprentissage de la musique joyeusement désordonné, mais accessible à tous.
Alors nous, c'est les Maccabées. C'est un petit jeu de mots parce que donc on est la fanfare de l'université Paris Sud qui se trouve au Kremlin-Bicêtre, donc à KB. Donc c'est jeu de mots avec Maccabé, donc un cadavre. Mais non, mais voilà, c'est l'esprit carabin. Donc Maccabé avec du coup K et B à la place de l'orthographe initiale.
Bienvenue donc à la grisante fanfare des Maccabées, une parenthèse enivrante qui détonne un peu avec le sérieux des lieux et la pression des études, comme nous l'annonce Marguerite, la secrétaire de l'association.
La BU, elle est deux étages au-dessus, on joue fort, pas toujours juste, et du coup pour les étudiants qui révisent, c'est très compliqué, donc par respect pour eux, on ferme la porte, et ça fait un peu de bruit, mais ça passe encore.
La répétition de ce soir est spéciale, les Maccabées recrutent chez les deuxièmes années de médecine. Alors autour d'un goûter, on propose aux curieux de délaisser les livres d'anatomie pour tester les instruments. Des instruments qui leur sont ensuite prêtés gratuitement s'ils adhèrent à l'association, elle aussi gratuite. Nicolas joue des percussions et du sous-bassophone, une sorte de tuba contrebasse, une pièce de cuivre lourde de 15 kilos.
Je suis externe. Bah, clairement, la fanfare, c'est pour se détendre le soir, prendre du plaisir, pas prendre ça comme une contrainte. Et ça nous permet de nous détendre, hein, en étudiant en médecine. C'est pas tout le temps facile. Donc, avoir des sorties comme ça, c'est toujours un plus.
<t'->
La plupart de ces étudiants apprennent un instrument au sein de cet orchestre avec pour professeurs les élèves du cours supérieur. Et pour les questions de solfège, la fanfare a simplifié radicalement l'apprentissage. Marguerite nous montre les partitions dans un classeur.
Comme tout le monde peut venir, même ceux qui n'ont jamais fait de solfège, et que 8 ans de solfège, ça ne s'apprend pas en un an. On a des partitions où on écrit les notes, mais sans les rythmes. Et donc, on écrit les notes comme un do, des, o. Et donc, ça fait des partitions retranscrites à l'écrit que tout le monde peut lire. Et pour apprendre les rythmes, il faut écouter les enregistrements qu'on a.
Un apprentissage très festif et bienveillant, vous l'aurez deviné, Saskia, très loin du cadre du conservatoire et qui convient mieux à Audrey. Elle a commencé la trompette au sein de cette fanfare.
On ne juge pas les gens sur leur niveau musical. De toute façon, là, on est dans une salle, c'est un brouhaha. Si on fait des fausses notes, on joue et petit à petit, ça vient. Mais c'est ça qui est l'avantage, je pense, par rapport à d'autres formations un peu plus scolaires. C'est qu'on ose beaucoup plus jouer, souffler fort. Et du coup, je pense que ça marche mieux, peut-être, qu'aller au conservatoire et être stressé par le jugement des autres, quoi. Voilà.
La fanfare des Maccabées a ses propres codes, finir leur show sur I Will Survive de Gloria Gaynor, jouer leur hymne appelé le Cabé en référence au Kremlin Bicêtre, partir en vacances ensemble pour faire entendre leurs cuivres et percussions dans les villes espagnoles par exemple, et participer au Festi Concours, le concours pour lequel les fanfares des grandes écoles s'affrontent. Marguerite.
Tous les 3 ans, il y a le Festi Concours, qui est un regroupement national de fanfares étudiantines, où on fait une compétition de fanfares, mais c'est surtout un moment où on joue tous ensemble et il y a un jury qui juge qui sont les meilleurs fanfares en fonction d'un thème qui a été imposé. Il y a 2 ans, c'était Retour vers le futur et on a été disqualifiés parce qu'on n'était pas dans le thème.
Rendez-vous donc à l'été 2021 pour le prochain Festi Concours.
Merci beaucoup Marie Jéquel pour ce réveil dynamique et nous vous rappelons, chers auditeurs, que les fanfares accueillent tout le monde, même ceux qui ne sont pas étudiants.
Thank you.
virtuoso de Thierry Esquèche, ici par l'excellent quatuor Ellipsos à 8h29. Et c'est l'heure de retrouver comme chaque semaine Marc-Olivier Dupin pour sa chronique Battement de cœur. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Serons-nous britanniques ce matin ?
Yes, of course.
Oh yes, my dear.
Oui, oui, pour le répertoire, mais pas pour les interprètes. Vous allez entendre de la pop anglaise trop cool, chantée et jouée par des lycéens du Grand Est de la France et d'un lycée allemand frontalier. Ils swing et groove sous la direction d'un formidable prof d'éducation musicale et de chant choral, Emmanuel Trombowski, accompagné par une magnifique équipe de profs. C'était le 11 juin dernier à l'auditorium de Radio France.
Est-ce un projet rare pour l'éducation nationale, Marc-Olivier ?
Non, il y a beaucoup de belles réalisations chorales dans les écoles, collèges et lycées, beaucoup plus qu'on ne croit, et sur les répertoires les plus divers. Mais ce que nous venons d'entendre est original à plusieurs titres. D'abord, la qualité des arrangements et le choix du répertoire. Je trouve formidable et très important que les ados puissent aussi pratiquer le chant choral sur des répertoires qu'ils écoutent et qu'ils aiment, et pas seulement sur des tubes d'il y a 3 ou 4 siècles. J'aime Rameau, mais j'aime aussi Bohemian Rhapsody. Je pense que c'est important pour la pratique musicale qu'on puisse se balader dans les répertoires. Ensuite, ce projet est formidable parce qu'il est interlycée, c'est-à-dire qu'il associe des lycées français, plusieurs lycées, avec un lycée allemand frontalier. Et donc ce mélange des cultures est à lui seul d'ailleurs une jolie polyphonie. Lors de ce mémorable concert, Saskia, vous avez certainement adoré les coulisses de Radio France. Sa pioupiouté est chantonnée en plusieurs
langues. Et je m'en rappelle bien, c'était 11 juin dernier.
Enfin, la qualité du résultat musical et le bonheur des interprètes ne laissent aucun doute sur le succès de ce voyage musical en Angleterre.
Tiens, y avez-vous des nouvelles de l'évolution du plan choral souhaité par les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture ?
Alors, la mobilisation des acteurs publics et privés est indiscutable. L'État, les collectivités territoriales, les mécènes et les artistes s'y engagent véritablement. Mais de mon point de vue, deux priorités demeurent, et probablement pour longtemps. La première, c'est la formation à la direction de chœur, à tous les niveaux, à tous les étages, de l'instituteur au chef de chœur professionnel. Et la deuxième, c'est faire en sorte que les chorales se multiplient et prolifèrent comme des petits lapins de garenne sur tout le territoire, et en particulier dans la France rurale. Mais back to England.
Floyd ce matin sur France Musique avec cet extrait de ce concert donné dans le cadre de ce grand projet mené le 11 juin dernier ici à Radio France à l'auditorium École en Chœur. Merci beaucoup Marc-Olivier de nous replonger dans ces beaux souvenirs, en tout cas avec cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine bien sûr.
Avec joie.
Pour continuer à parler chant choral, et en attendant vous pouvez réécouter cette chronique sur francemusique.fr. On va tout à fait changer d'ambiance, hein. Fini l'Angleterre pour la suite et direction l'Autriche avec un compositeur dans lequel je me replonge pour le moment, un petit peu par hasard mais que j'aime beaucoup, c'est Anton Bruckner. Cette Ave Maria chantée par le chœur de la radio suédoise dirigée par le grand Erik Eriksson, père du chant choral, que je vous propose d'écouter à 8h34. Un Ave Maria signé Anton Bruckner, interprété ici par le chœur de la radio suédoise. Eric Eriksson à la direction. Il est 8h38 sur France Musique, c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Antoine Moulet.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes président, vous êtes fondateur de ce festival Ouverture, musique française à Semur en Auxois, qui se déroule au cœur de la Bourgogne. La deuxième édition a démarré hier soir. Qui a eu l'idée de ce festival, Antoine Moulet?
Je vais vous dire, c'est nous. Nous, c'est une bande d'amis autour de musiciens, d'artistes, d'agents, d'un chef. Il faut dire aussi que tout ça, c'est un peu la bande à Marc Minkowski, il faut le dire franchement. Et même s'il n'est pas là, mais il est là par
le cœur. Au cœur du festival.
Voilà, au cœur du festival, mais par le cœur. Et donc, on est toute une bande d'amis qui avons eu cette envie de créer ce moment privilégié pour la musique française.
Mais justement, parlons-en de la musique classique française. Elle avait besoin d'un festival bien à elle.
Alors,
en Bourgogne.
Il faut rendre hommage à nos amis de la Côte-Saint-André, à nos amis même des Comminges, à nos amis du Festival Ravel. Donc, je veux dire, il y a d'autres lieux qui célèbrent la musique française. Il n'y en a pas, à notre connaissance, depuis la fin de la Biennale de Lyon, qui soit consacré à la totalité du répertoire. C'est-à-dire qu'en théorie, nous sommes appelé à traiter des débuts à aujourd'hui. Et ça, je crois que ça existe, ça n'existe pas.
Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la musique classique française, pour
vous ? C'est difficile. D'abord, il y a un aspect politique, comme souvent dans notre pays, puisqu'elle a été en quelque sorte fondée par Louis XIV sur un projet politique, une fois encore, face à la musique italienne. Mais ça, ça ne la définit pas artistiquement. Il y a une chose qui la définit, en revanche, c'est que, évidemment, Louis XIV demande à un Italien, Lully, de fonder le genre français. Le nom du festival est d'ailleurs un peu un clin d'œil à Lully et à la forme française
festival
par excellence.
Ouverture,
Alors c'est à la fois l'ouverture effectivement sur l'international et puis c'est l'ouverture à la française qui est une forme de la musique française évidemment séminale qui a donné plein de formes et notamment la grande sonate ou des choses comme ça. Bon. Donc qu'est-ce qu'elle a de spécial une fois qu'on a dit ça sur Lully? Je crois qu'elle a une forme de clarté, d'élégance, de légèreté. Pour moi, qui ne suis qu'un mélomane, hein, qui la distingue, elle peut sembler moins profonde, elle est plus en retenue que sa sœur ou sa cousine allemande, elle est parfois moins dans l'effusion que sa cousine italienne, et donc elle est française.
Elle est française, évidemment. Alors, il y a 6 concerts dans le cadre de ce festival. Un premier a eu lieu hier, il en reste encore 5 pour notre plus grand bonheur, évidemment. Les 12, aujourd'hui, 19, 20, 26 et 27 octobre, on va détailler tout cela avec vous, Antoine Boulet. Il y aura de la place pour la musique française d'aujourd'hui aussi.
Alors, il y a dans le concert notamment de Elle, c'est-à-dire le concert d'Aedes, de la place pour la musique française d'aujourd'hui avec une pièce de... Alors, j'allais dire Aoutavara, mais ça, on n'est pas dans la musique française d'aujourd'hui, évidemment. voilà, il y a de la place pour la musique française d'aujourd'hui. Pas encore assez, il faut faire plus l'an prochain.
Thank you.
Dieu qu'il l'a fait bon regarder, l'une des trois, la première des trois chansons de Charles d'Orléans de Claude Debussy, interprétée ici par l'excellent chœur Aedes, dirigé par Mathieu Romanou, qui sera eh bien en concert dans le cadre du festival Ouverture, dont nous recevons le fondateur Antoine Boulet ce matin, festival de musique française à Semur en Auxois, concert ce soir à 20h avec un programme un petit peu particulier que le chœur, l'ensemble Aedes avait déjà donné à d'autres occasions, mais qui, moi, en tout cas, avait attiré mon regard. Vous nous en dites quelques mots.
Oui, alors, d'abord, pour nos auditeurs de Bourgogne et de l'Aussois, il sera un peu différent de celui donné à Vézelay au printemps, puisqu'il y aura plus de compositeurs français et de compositrices. Il y a l'excellente Chaminade, qui est une compositrice méconnue et qui fait des choses merveilleuses avec ce duo d'étoiles qui est vraiment une merveille. Mais il y aura aussi La mort d'Ophélie de Berlioz. Donc, on a francisé le programme qui a été donné à Vézelay au printemps. Et alors, ce programme, c'est un programme de femmes. Donc nous avons 8 chanteuses, les 8 magnifiques voix soprano et alto d'Aedes. Non pas qu'on soit contre les hommes d'Aedes, mais il se trouve que ce programme, il est fait, il s'appelle
Elle.
Il les met en valeur. Dans une année, on va pas se mentir non plus, dans une période particulière où la cause des femmes est chère à notre cœur à tous. Et donc c'est une manière de leur rendre hommage.
Et j'espère que vous continuerez à le faire au cours des prochaines éditions, évidemment, Antoine Boulet. Autre concert à l'affiche, un concert dirigé par le directeur artistique de ce festival, Thibaut Noaly.
Oui, Thibaut Noaly dirige son ensemble Les Accents. On est très fiers d'avoir Thibaut et puis d'avoir Les Accents avec nous. C'est les concerts en sextuor de Rameau. Cette pièce, dont je dis parfois un peu de manière un peu, trop clinquante, que c'est le Da Vinci Code de la musique baroque et de Rameau. Pourquoi ? Parce que c'est une partition mystérieuse, 500 qui visiblement écumait les couloirs de la Bibliothèque nationale, tombe sur ces partitions par partie, qui sont les concerts, donc en trio de Rameau, mais arrangés pour 6 instruments. Il a complété, il manquait certaines parties, donc on a une pièce qui a une histoire étonnante, qui est rarement donnée, et qui est pleine de charme, évidemment.
Et ça, ce sera le week-end prochain, le 20 octobre à 16h30, dans le cadre de ce festival Ouverture. Il y aura également à l'affiche l'une des plus grandes sopranos françaises. Puis je vous propose de l'écouter. Chanson d'Orgueniz, Les Banalités de Francis Poulenc. Vous avez peut-être reconnu cette voix sublime, celle de Sandrine Piau, accompagnée par l'excellente Suzanne Manoff au piano. Deux musiciennes qui seront conviées également dans le cadre de ce festival Ouverture. Ce sera le 19 octobre, samedi prochain à 20h. Une grande chanteuse que vous appréciez beaucoup, j'imagine, Antoine Boulet.
On a beaucoup de chance d'avoir Sandrine Piau et Suzanne Manoff, puisqu'elles seront là toutes les deux. Et on est tout tremblant de les recevoir, parce qu'on est encore un festival naissant. On va aller la chercher à la gare. C'est la joie pour un mélomane de pouvoir côtoyer comme ça des grandes voix. Et ça va être un programme merveilleux, avec du Chausson, avec du Poulenc, mais aussi avec du Wolf, avec du Mendelssohn et du Barber. Donc je pense qu'on est très fiers d'avoir Suzanne Piau avec nous pour ce festival.
Un festival naissant, vous le disiez, une deuxième édition pour ce festival d'ouverture. Quelle est votre ambition? Quelle est votre envie? Qui cherchez-vous à toucher, peut-être, Antoine?
Bien, nous cherchons à toucher tous les mélomanes, j'allais dire, de France et de Navarre. C'est-à-dire, soyez les bienvenus. Allez sur notre site www.festival-semur.fr pour prendre vos places. Semur, par ailleurs, est une ville magnifique, un coin de France et de Bourgogne absolument fameux. Donc ça, c'est tout le monde. Et puis, localement, nous voulons des concerts accessibles à tous, à la fois par la programmation, mais aussi par les prix, bien entendu. Et le but, malgré tout, c'est d'être un rendez-vous qui compte dans le cycle annuel des festivals. L'an prochain, nous créerons un prix des jeunes interprètes de musique française. Donc nous voulons, et nous voulons aussi nous rapprocher d'ailleurs des autres festivals qui traitent quand même de ce thème. Je parlais du festival Ravel, je parlais de la Côte-Saint-André, pour qu'il y ait comme ça une amicale des festivals qui traitent de la musique française. Peut-être avoir des recherches sur le sujet pour mieux définir ce que c'est. Voilà, pas par chauvinisme, moi je suis un fanatique de Bach ou des Italiens ou autres, mais parce que c'est une tradition qui est belle et qui mérite d'être entendue.
Un petit mot sur le lieu qui accueille ces concerts, Antoine Boulet.
C'est un petit théâtre charmant à l'italienne, qui a une jauge un peu petite de 260 places, qui a été bâti en 1847, reconstruit en 1903. La date est importante parce que sur le plafond, parce qu'il y a eu un incendie, il y a une toile du plafond où on peut lire en transparence sur une partition chantée par trois cantatrices à bas la calotte. Donc on est très daté, on est deux ans avant 1905 et le peintre s'est amusé.
C'est le théâtre du Rempart à Saumur, Nossois évidemment, qui accueillera donc cette série de concerts dans le cadre de ce festival Ouverture. Vous parliez d'une adresse, d'un site internet évidemment, Antoine Boulet, www.festival-saumur.fr. On va se quitter avec un autre musicien que j'aime beaucoup, Adam Laloum, qui sera en concert. Lui, il y a deux reprises, il a beaucoup de chance, les 26 et 27 octobre. Et pour le premier des deux concerts aux côtés de l'excellent Quatuor Arod, ce sera un concert qui sera capté par France Musique, on va le souligner, puisque France Musique est partenaire de ce festival Ouverture, musique française à Saumur en Nossois. Merci beaucoup Antoine Boulet d'être venu nous parler, de nous faire découvrir ce festival.
Merci à vous.
Et à très bientôt. finale de cette sonate en la majeure de César Franck, arrangée ici pour violoncelle et piano et interprétée par des musiciens. Gabriel Olivier Aguillon a poussé la porte du studio pour me dire à quel point elle aimait cette version. Victor-Julien Laferrière et Adam Lalloum, s'il vous plaît. Il est 8h54. Et c'est l'heure d'accueillir Roselyne Bachot pour sa chronique Bon Rouge. Bonjour, bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
Et ce soir, spéciale dédicace pour vous. À 20h, notre soirée opéra nous fait retrouver votre chéri Giuseppe Verdi et son dernier opéra Falstaff.
Que du bonheur! Effectivement, c'est le dernier opéra de Verdi, avec un livret tiré des Joyeuses Commères de Windsor, du grand Shakespeare, et on retrouve le trio magique, celui qui avait triomphé dans le Simon Boccanegra remanié, donc autour de Verdi, le librettiste Arrigo Boito, et dans le rôle-titre, la quintessence du baryton verdien, le Marseillais Victor Morel. Il a été créé à la Scala, Falstaff a été créé à la Scala de Milan le 9 janvier 1893, 8 ans donc avant la mort du génial maestro. Et sans aucune tristesse, c'est pour moi l'occasion de revenir sur cette décennie prodigieuse du maestro. Il faut dire, bon, tout cela a mal commencé quand Verdi s'est mis, à la demande de Ricordi, à composer Othello en 1884. Travail laborieux, et quand le maestro s'installe au Grand Hôtel de Milan le 4 janvier 1887, il fait régner la terreur sur les musiciens, y compris un jeune violoncelliste, on ne le connaît pas encore, mais il s'appelle Arturo Toscanini. Il fait régner la terreur sur les choristes, les machinistes et surtout les solistes. Les journalistes rôdent. Et font circuler le bruit que le grand Vecchio est un homme fini qui ne peut plus que se plagier lui-même. Et c'est une tempête qui va embraser la Scala le soir de la première, le 5 février. L'ovation faite à Verdi est interminable. Boito est blanc comme un linge quand Verdi va le chercher dans les coulisses. Les Milanais portent la calèche du compositeur en triomphe. Au balcon de l'hôtel, il contemple cette foule en redécouvrant l'amour incroyable que lui portent ses compatriotes. Alors il pourrait s'arrêter sur ce triomphe. Il a 73 ans, il a connu l'amour, la gloire. Il peut mesurer quelle sera sa postérité. Mais il écrit au chef d'orchestre Franco Facchio cette lettre. En quittant le théâtre, les visages des musiciens me disaient « Nous ne nous reverrons jamais plus » et c'était comme un glas. Allons, encore un effort, d'autant que le maestro a un compte à régler, une revanche à prendre. Il n'oublie rien de surcroît hein, quand on lui a manqué. Il est assez rancunier, Verdi. Le directeur de la Scala de Milan, Merelli, lui avait commandé en 1840, au début de sa carrière, un opéra bouffe, Un giorno di regno. Giuseppe alors était dévasté par la mort de sa femme Margherita et l'expérience fut un désastre. De cela aussi, il faut effacer la cuisante humiliation. Boito le presse. Il n'y a qu'un seul moyen de terminer votre carrière, mieux encore qu'avec Othello, c'est de la finir victorieusement avec Falstaff. Après avoir fait résonner les cris et les lamentations du cœur humain, finir par une immense explosion d'hilarité et les ébahir. Verdi n'a plus rien à prouver, il veut s'amuser. Il compose une œuvre jubilatoire, précise au chanteur qu'il veut de l'allégresse, rien que de l'allégresse, et surtout, ne tombez pas dans le sentimental. À 80 ans, le vieux nous offre un opéra, Falstaff d'une ébouriffante modernité, d'une folle jeunesse, comme un pied de nez à la mort. Il a voulu dompter la Camarde de la Léonora du Trouvert au Libérame du Requiem, mais c'est avec Falstaff qu'il la domine, puisque décidément, tutto nel mondo è burla, le monde entier est une farce. Et ben, je vais vous faire entendre justement le chœur final que vous entendrez dans la soirée de ce soir. C'est Brinterfell qui est Falstaff au Covent Garden, sous la baguette de Nicola Luizzotti.
Bonjour
voilà quelques mesures, un avant-goût de votre soirée opéra ce soir sur France Musique dès 20h avec Judith Chen, bien sûr. Merci beaucoup, Rosine Bachelot, pour cette petite mise en bouche. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, et nous aussi, chers auditeurs, pour la matinale du samedi. Un petit mot sur notre concours du jour avant de se quitter. Ce matin, je vous proposais de remporter vos places pour le récital que Jonas Vito donnera dans le cadre du festival Listomania le 23 octobre prochain. Je vous demandais de deviner le nom de cette danse. À trois temps, danse lente tournoyante, vous avez une petite idée, immortalisée par Johann Strauss, Roselyne?
Je crois que la valse doit être la bonne réponse.
Roselyne, vous remportez vos places comme certains de nos auditeurs qui seront recontactés par email, bien sûr. Il me reste quelques secondes pour remercier toute l'équipe, Marie-Ferdinand, Laurent Lefrançois, Guillaume Ledu, Victoria Asper, José Bernès, Valentin Bobinet et vous, chers auditeurs. Je vous souhaite une très belle journée.
À réécouter sur francemusique.fr.